essaiera de voir comment on peut faire, comment on peut réagir avec tout ça. Parce que moi, quand même, surtout à Lyon, je me suis fait la manif parce que j'avais envie et c'était pour la liberté d'expression. Et donc voilà, c'était pour ça que j'y suis allé. Je suis allé à Lyon, je ne suis pas allé à celle de Paris, je ne suis pas allé derrière les hommes politiques parisiens et toute leur merde. J'y suis allé parce que j'avais envie, parce que je suis un éternel optimiste, peut-être.
Mais on n'a pas à se justifier, hein. Chacun y va pour ce qu'il a envie, quoi. Moi, je sais que personnellement, c'est avec la douleur d'avoir perdu des gens qui nous semblaient être des proches. Après, voilà, il ne faut pas se justifier à savoir pourquoi on fait ça et ça. C'est à titre personnel et on a envie de sortir dans la rue ce jour-là, ben on le fait. Hein.
Voilà, il y avait un esprit, il y avait une manif. C'était... Moi, je trouve qu'ils avaient ouvert leur chakra, tu vois. Dans le...
Je sais que je suis sorti dès le mercredi soir au terreau à 18h. Et ouais, c'était très émouvant, quoi. Hein, très, très émouvant. Et voilà, on y va dans la douleur, quoi. Mais on va peut-être attaquer par un petit...
Juste, parce que moi, je voulais juste te dire, mon esprit Charlie sure. aussi, justement, c'est la liberté d'expression. Et je rappelle que quand même, il y a l'article L34-21-4 qui nous empêche de nous exprimer, qui nous interdit de dire que le cannabis, c'est bon. Donc d'ailleurs, on ne le dit pas à cette antenne, puisqu'il est interdit de le dire que le cannabis, c'est bon.
C'est même...
Et ça, c'est une atteinte à notre liberté d'expression.
Mais c'est clair.
Donc voilà, et moi c'est ça aussi l'esprit Charlie, et j'espère que tu vois, on va arriver à être dedans pour faire comprendre ça, et peut-être qu'on va arriver à faire légaliser, parce que je pense que c'est important, parce que je pense que si on veut vraiment l'intégration culturelle aussi dans notre France, dans notre monde, dans notre Europe même, je sais pas, dans notre monde. Si on veut qu'on vive tous ensemble, eh ben il faut la fin de la prohibition, parce que c'est la ségrégation sociale, c'est la stigmatisation, c'est l'inégalité juridique. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment légaliser. Voilà, il faut sortir de ça. Il faudra voir comment on y arrive, parce que voilà, quoi qu'on puisse dire, comme même pendant la manif, c'était très bien avec les flics. Mais l'application de la loi actuellement, c'est une application raciste, c'est une application policière. Et je pense qu'il faut vraiment, vraiment l'abroger. Voilà, voilà. Et il faut encore que vous parliez, parce qu'il faut qu'on trouve quelque chose à mettre en musique.
Ah, il y a Jérôme qui arrive dans le studio aussi, tout est soufflé. Salut Jérôme. On a David Salut. Aussi avec nous là-bas, qui n'a pas trop envie de parler. Salut David.
Bonsoir.
Voilà. Moi, en fait, juste pour suivre un petit peu ce que disait Jacques, moi, dans cette manif, en fait, je pense que chacun d'entre nous, on y va pour notre propre raison. Et quand certains y vont pour défendre la liberté, le droit d'expression, tout ça, moi, ça me fait bien marrer, justement, parce que nous qui défendons, justement, ce sujet du cannabis, comme vous disiez, Jacques, tout à l'heure, on n'a pas le droit de dire que le cannabis, c'est bon, mais il n'y a pas que ça. On n'a pas le droit de présenter le cannabis sous un jour favorable. Donc, à partir de là, faire de l'information sur le cannabis, c'est pour ainsi dire quasiment impossible, quoi. Cette prohibition nous empêche de parler.
Tout
Et quand
fait.
On nous dit qu'en France, on a la liberté d'expression, moi, je suis quand même assez sceptique, quoi. Les gens du cirque de longue date ont tous plus ou moins été embêtés par la police. Jean-Pierre Gallon, le fondateur, pourra vous parler de la liberté d'expression et de pensée en France. Donc voilà, nous, ça nous faisait rire doucement, mais c'était pas la question, en fait. On a perdu des proches, quoi, voilà.
Allez.
On dit 2, on dit 3, on dit 4, allez. Parle à Saint-Sémilia, Kaya au Tropauka, sans tout le monde tu peux l'aider. Voilà Kancha. Mais écoute bien ce que c'est Lila, et oui, il n'y a pas que ça. Un petit joueur, une tequila, y'a le peu pour vivre dans le fracas. We'll be right back. capitalise là, capitalise, capitalise, capitalise là. Mais qui ça? Mais qui ça? La Marie, la Marie, la Marie.
C'est nous, toujours sur Cannabis Circus, sur Radio Canu, pardon, dans l'émission Cannabis Circus, comme tous les lundis soirs, de 21h à 22h. Alors, bon, bah oui, c'est vrai, il s'est passé quelque chose de très grave la semaine dernière. Je sais pas si on va pour autant faire une émission spéciale, un tout petit peu quand même, parce que bon, Charlie Hebdo avait publié un numéro spécial le 22 octobre dernier, cannabis légalisé. Donc ce soir, on va s'intéresser à un, voire à deux articles. Alors je trouve le plus intéressant, c'est l'article de Bernard Maris, l'article de Elsa Kaya, qui était psychanalyste. Bon, pourquoi pas. Voilà, après, ce serait bien de. Ça aurait été pas mal de parler un peu de la globalité du journal, enfin de numéro spécial dont on n'a pas parlé. Je crois que j'ai le numéro chez moi et on n'a pas traité du numéro spécial dans Cannabis Circus. Ouais, c'est vrai, souvent l'actu est quand même assez chargée et bon, on peut pas traiter de tout, en effet, on met à coup pas quoi. Donc bon, ce soir, c'est un peu l'occasion quand même d'en parler un petit peu.
On en avait parlé, il me semble.
Non, on avait juste dit que Charlie Hebdo avait sorti un numéro spécial, mais on n'avait pas parlé des articles. Voilà. Et il y a un auditeur qui nous a appelé il y a quelques semaines pour nous le rappeler, d'ailleurs. Michel, qui nous écoute souvent, d'ailleurs. Voilà, donc après, on va quand même en parler un peu ce soir, mais bon, il n'y a pas que ça. On va s'intéresser à l'article... intéressant également de Pierre-Yves Joffard, qui est un sociologue de l'école des hautes études en sciences sociales, qui dit des choses aussi très intéressantes, je trouve, suite au rapport Terra Nova. Alors cette semaine, une actualité pas hyper chargée non plus. Je pense que les journalistes qui s'intéressent à la question ont suspendu un peu leurs plumes la semaine passée, en raison de l'actualité, et c'est bien légitime, on comprend bien. Voilà, donc bon, peut-être on ira faire un petit tour aux États-Unis, un tout petit article de Pourquoi Docteur sur l'Illinois, où une nouvelle loi est entrée en vigueur et qui permet aux enfants de se voir prescrire du cannabis à des fins thérapeutiques. Il y a un tout petit article, mais qui dit quand même pas mal de choses. Dans cannabisinfo.com, un article que j'ai trouvé pas mal non plus sur le pourquoi du comment quand des gens fument quelque chose avec du cannabis dedans, bah, ça leur donne faim. Voilà, il y a des raisons aussi. On ira faire un petit tour aux Pays-Bas où ils s'apprêtent à voter une loi contre les gros shops qui vendent du matériel de culture à des pros. Voilà, on verra un peu plus. Mais bon, c'est inquiétant quand même.
Ouais, c'est inquiétant.
C'est inquiétant. Et rapidement, pour celles et ceux qui ne s'en souviennent pas et qui ont encore la possibilité d'aller sur Arte Replay, Arte Plus 7, on vous expliquera pourquoi. Il s'est passé quelque chose, un truc bien sur Arte mercredi dernier. Et un peu de faits divers. Dans le midi, 300 pieds de cannabis découverts. Et peut-être, si on a encore le temps, on ira faire un petit tour en Afghanistan où, une fois de plus, le Monde nous explique que la lutte contre l'opium est un cuisant échec international. Et encore une fois, on verra que les journalistes du Monde qui parlent du problème de l'opium, visiblement, font pas le rapprochement avec le problème plus global de la prohibition des drogues. C'est récurrent au Monde. Ça fait au moins 10 ans que ça dure. Voilà, c'est un peu triste. Notre ami Raph... qui est lecteur assidu du Monde, ne s'est pas privé de le rappeler. Voilà, un petit peu au sommaire de l'émission ce soir. Donc, on va commencer l'article de Joffard. Mmh. Ouais. Donc, je vous propose qu'on parle d'abord de cet article, et puis qu'on parle après de l'article de Bernard Maris, parce que c'est un peu intéressant, ça va un peu dans le même sens. Donc voilà, donc bon ben on en a déjà parlé dans cette émission. Terra Nova qui est un think tank. Alors think tank c'est en anglais. En français on pourrait dire en fait c'est un réservoir d'idées. Voilà, c'est ça que ça veut dire, un club de pensée ou un cercle de pensée ou un cercle d'idées, qui regroupe des politiciens, des intellectuels, des penseurs, des érudits, bref, beaucoup de gens. Donc Terra Nova, c'est un cercle de pensée plutôt marqué à gauche, composé, en tout cas par rapport à l'article sur la question des drogues et du cannabis, composé de deux chercheurs qui sont souvent appointés par l'OFDT, donc des gens qui connaissent quand même la question, Pierre Kopp et Ben Lagdar, qui pour l'un est économiste, les deux sont économistes d'ailleurs. Donc voilà, Joffard reprend, en tout cas parle de la publication par Terra Nova du rapport qui préconisait de réguler le marché du cannabis, et donc nous explique que ça vient de rouvrir le débat en France sur ce sujet. Il est bien optimiste, monsieur Joffard, je ne sais pas si le débat est vraiment ouvert, en tout cas ça le mérite de l'amorcer. En tout cas, monsieur Joffard nous dit que la situation est en effet consternante, que le statu quo n'est plus tenable, que tout produit illicite, bien évidemment, fait l'objet de trafic régulier de plus ou moins grande ampleur, mais que celui du cannabis, ben, c'est probablement celui qui est le plus développé et qui nourrit une criminalité délétère pour certains territoires. Et si les usages récréatifs, nous dit-il, et modérés prédominent, les dommages sanitaires liés à une consommation trop fréquente ou trop précoce sont importants. Et partout dans le monde, la politique répressive est un échec et de plus en plus d'États ont tiré les conclusions de ces échecs en expérimentant d'autres pistes. La dépénalisation de la consommation est une première étape, mais tant que la production et la distribution sont laissées aux organisations criminelles, les dégâts restent importants. Seule la légalisation de la filière permettrait de sortir de l'impasse. Voilà. Donc ce rapport, M. Joffard reprend un peu les deux axes examinés par les promoteurs de ce rapport. Donc il y avait deux scénarios, une régie publique et une ouverture à la concurrence. Voilà. Donc dans les deux cas, le principe des taxes perçues un peu comme pour le tabac permettrait d'une part de maintenir un prix assez élevé pour éviter, nous dit-on, une explosion de la demande, tout en assurant donc les fameuses recettes fiscales qui pourraient, selon les auteurs de l'étude, atteindre 1,7 milliard d'euros. Et elle permettrait également que les ressources publiques actuellement consacrées à la répression soient réallouées à la prévention des risques sanitaires liés au mauvais usage. Au mauvais usage, ça c'est pas mal ça. Il dit pas les usages finalement, les mauvais usages. C'est un progrès. Et ensuite, M. Joffard nous explique un peu quelle est l'ampleur de la répression. Et là, honnêtement, c'est des chiffres un peu nouveaux que je découvre, mais bon, il nous explique... Alors, je ne sais pas si c'est par an, je ne sais pas si c'est sur 10 ans, si c'est sur 40 ans, mais que la répression elle est sévère, plus de 7000 incarcérations pour trafic de stupéfiants et 16% des gardes à vue, 30 000 condamnations prononcées pour simple consommation de stupéfiants et en très grande majorité du cannabis. 30 000, je pense que c'est plutôt sur 10 ans. Voilà. Et pourtant, malgré cette intensité répressive, bah, la consommation, elle est massive. Hein, et au sein de la population générale, 8% en consomme plus ou moins régulièrement. Plus de 20% des 15-24 ans, ce qui fait de la France un des pays bien placés dans le trio de tête des pays d'Europe, avec Danemark et Espagne. Et donc, il semble bien que la seule raison d'être de la pénalisation soit de permettre à l'État de faire preuve de fermeté, sans trop s'interroger sur les effets et les résultats de cette politique. Mais pourtant, en termes d'économie, ce que l'extension du phénomène suggère est simple. Le coût de production est faible et la disposition à payer des consommateurs est élevée. Cette différence laisse une place importante pour que, le long de la chaîne de distribution, différents intermédiaires prélèvent une part du prix de vente. Au lieu que ces intermédiaires nourrissent des réseaux criminels souvent violents, eh ben, la légalisation elle permettrait justement d'alimenter les caisses de l'État. C'est le choix qu'ont fait l'Uruguay et le Colorado ou l'État de Washington. Et d'autres États, certainement, probablement plus tard. Bientôt. Bientôt, même pas plus tard, mais bientôt. Et donc, le grand mérite de ce rapport, c'est de placer le débat là où il est pertinent, c'est-à-dire qu'il doit désormais porter sur la meilleure régulation de la production et de la distribution du cannabis. En revanche, et ça, c'est là que l'article est bien, on sent comme une hésitation pudibonde de la part des auteurs qui ne vont pas jusqu'à préconiser la liberté du commerce. Peut-être estime-t-il qu'un monopole public jouirait d'un plus grand soutien qu'une organisation concurrentielle, toujours suspecte en France, point d'interrogation. Pourtant, le cannabis se cultive facilement, peut se prêter à une diversité de gammes en termes de caractéristiques recherchées par les consommateurs, et la concurrence n'interdirait pas une normalisation et une certification de la qualité et de la sécurité des produits assurés par un organisme public, comme par exemple l'ANSM. Ça, c'est moi qui le rajoute. Hein. L'argument soulevé par les auteurs est qu'une organisation plus libre du marché risquerait de conduire à une forte hausse de la consommation. Mais un niveau adéquat des taxes permettrait de réguler la demande sur le modèle actuel du tabac. Qui plus est, au nom de quoi refuser en soi une augmentation de la demande. Dans tous les cas, et d'ailleurs même en l'absence d'évolution du cadre légal, une politique de santé publique plus volontaire doit accompagner les usagers pour qui la consommation est problématique. Mais rien n'indique que la légalisation handicaperait cet accompagnement nécessaire. Enfin, on peut aussi regretter que la réflexion conduite sur le cannabis ne concerne que ce seul produit actuellement illicite. Le rapport se conclut même par un souhait pour le moins étrange. Les auteurs préconisant d'utiliser les ressources actuellement consacrées à la répression du cannabis pour renforcer la lutte contre d'autres substances, comme la cocaïne. En quoi les arguments mobilisés pour l'étude d'un marché ne seraient pas valides pour d'autres drogues ? Mystère. Manifestement, il reste encore du chemin à parcourir pour faire évoluer les mentalités et les politiques publiques. Voilà, donc M. Joffard, lui, visiblement, il ne voit pas d'un mauvais œil pour qu'on change les lois et qu'on mette en place un système de distribution adapté, hein, bien évidemment, à un autre produit. Voilà. Et je trouve ça bien. Je trouve ça intéressant. Que chaque produit peut, on peut imaginer effectivement, on peut envisager que chaque produit puisse avoir son système de légalisation encadré ou borné, quoi.
Enfin, moi personnellement, c'est ce que je pense, mais vraiment, quoi. Hein. C'est-à-dire que de toute façon, l'interdit fonctionne pas dans la mesure où on trouve toujours des produits et des gens qui veulent en consommer. Et puis l'interdit, ça veut rien dire. On t'interdit de consommer quelque chose. Donc, vaut mieux accompagner, en fait, la personne à consommer les produits de son choix. Déjà, au niveau des qualités, elle trouvera ce qu'elle veut. Puis au niveau de l'accompagnement, quoi. Hein. Donc, non, moi, je suis carrément favorable à titre personnel à une légalisation de chaque produit. En définissant justement un mode bien adapté.
Et voilà, une législation particulière pour chacun des produits, évidemment.
En tenant compte de leur spécificité. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines, on parlait du rapport parlementaire rendu par Mme Ledin et M. Marcangeli. Et Mme Ledin, elle disait ça d'ailleurs, elle disait, l'une des raisons qui fait qu'on n'avance pas au niveau du débat dans les politiques, elle dit, c'est certainement aussi une des raisons qui fait que ça avance pas, c'est parce que il y a plein de politiques qui ont aussi eux-mêmes connaissent des addictions à d'autres produits et que si on se met à légaliser ou à envisager un changement de loi pour le cannabis, il y a de fort à croire qu'on se mette à débattre de la sorte pour tous les autres produits, en fait. Et je pense qu'il y en a qui n'ont pas envie que ça avance, quelle que soit la direction.
Et je dirais,
le statu quo les arrange, quoi.
Il faut même revoir les modes de légalisation des produits qui sont déjà actuellement, quoi,
comme le tabac, aux médicaments.
Et les médicaments.
Moi, par contre, il y a une deuxième chose qui est intéressante et qui est lourde, que le rapport Terra Nova ouvre, c'est deux façons de légaliser déjà. Est-ce qu'on fait une régie publique ou est-ce qu'on fait une ouverture à la concurrence ? Moi, je poserais le débat un petit peu différemment. Donc, la régie publique, ça rappelle un petit peu ce qui se fait en Uruguay, avec plein d'autres principes. Donc, il n'y a pas que la régie publique, donc il y a d'autres choses qui vont autour, ce qui peut être intéressant. Et sinon, l'autre, l'ouverture à la concurrence, c'est ce qu'on voit un petit peu dans les États américains qui ont légalisé. Et là, je sais pas, c'est moins... Ça me tente moins, quoi.
c'est le libéralisme appliqué au cannabis.
Voilà. C'est pas mon système, voilà, quoi.
C'est
forcément
clair, mais après... si on doit réfléchir à la mise en place d'un système genre régie publique, pourquoi est-ce qu'on met en place un régime comme ça pour le cannabis et pas pour les autres substances comme genre l'alcool par exemple? Donc ça veut dire qu'il y a encore une discrimination par rapport au cannabis.
C'est bien pour ça que c'est l'ensemble des produits qu'il faut revoir.
Je pense que voilà, quoi.
Et en plus, là, les propositions, il n'y en a pas une qui parle d'autoproduction.
Ouais, exactement.
Et c'est vraiment regrettable, déjà.
Peut-être qu'on peut imaginer qu'un système un peu plus libre, ça pourrait intégrer l'autoproduction.
Il me semble que en Uruguay, ils ont le droit d'avoir
ça. En Uruguay,
ans,
hein. Bien sûr.
Non, on parle
dans Terra Nova.
Oui, dans Terra Nova.
On parle pas de l'autoproduction.
Pardon, excuse-moi.
Voilà. Mais oui, t'as raison. Ouais. Mais après, peut-être que dans le système un peu plus libéral imaginé par Terra Nova, peut-être que dedans, ils imaginent que l'autoproduction pourrait s'intégrer là-dedans, dans ce système plus libéral, quoi. Je sais pas, ils en ont pas parlé en même temps.
Moi j'ai pas lu le rapport, donc après, une régie publique, il y avait peut-être d'autres choses avec, hein, elle est peut-être plus complète, il faudrait peut-être
c'est pas très détaillé dans le. Non,
c'est pas détaillé,
Terra Nova. Ouais. Moi j'ai lu l'abstract, hein, j'ai pas lu tout le rapport Terra Nova, mais j'ai lu l'abstract sur leur site, site de Terra Nova.
Et est-ce qu'ils mentionnent aussi la pratique du cannabis thérapeutique?
Eh ben, il me semble pas.
Mais non, parce que moi, je te pose la question, parce que moi aussi, il me semble pas.
Après,
Non, mais après, il y a des lacunes.
Il y a des lacunes, et puis je pense que c'est très générique, très général, leur rapport, et que je pense que le thérapeutique pourrait s'intégrer dans l'un ou l'autre des systèmes, d'ailleurs, que ce soit libéral ou régie publique.
Mais on peut déjà saluer l'avancée de dire qu'il faut sortir de la prohibition, parce que c'est un échec, parce que... ça fait pas moins de consommateurs parce que ça remplit les prisons, ça fait du travail à la justice, à la police, pour rien, ça coûte, et puis ça règle absolument aucun problème, quoi. Voilà, vous voulez peut-être avancer un petit peu
c'est un petit coup musique,
un petit coup pur musical. Eh ben, musical, musicon, allons-y.
C'est reparti sur les ondes de Radio Canus en 2.2, la plus rebelle des radios. Vous êtes toujours dans l'émission Cannabis Circus, l'émission des adhérents du Cirque Lyon.
Enfin, des gens qui. Des auditeurs du cirque. Parce que des adhérents, c'est pas réservé qu'aux adhérents.
Non, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas que les adhérents, mais c'est quand même, en général, c'est les actifs du Cirque Lyon qui viennent animer l'émission
animer,
jusqu'à
oui.
présent.
Oui,
ah, mais
animer,
c'est
oui.
ouvert à tout le monde, hein, si je me suis mal fait comprendre. Tout le monde peut venir à l'émission pour parler en direct avec nous.
Avec
Ça
lui.
Fait peur à Jérôme.
Alors, on vient de s'écouter Peter Tosh.
On vient de s'écouter Peter Tosh avec le titre Legalize It.
Le fameux morceau. Bien. Alors, donc après Pierre-Yves Joffard, on va donc s'intéresser un petit peu à Maris, à Bernard Maris, à Oncle Bernard, donc. Tel était son pseudo à Charlie. Donc, le 22 octobre dernier, il y avait un numéro spécial Cannabis légalisé. Et différents articles, et notamment un article assez intéressant donc, de Bernard Maris.
Vivre une fois
tu,
comme
tu veux le lire, d'accord, vas-y.
Allez, ça a changé un peu.
Ah bah oui, t'as raison.
C'est qu'est-ce que, ouais, on peut que le lire de toute manière. Qu'est-ce
avant.
Qu'il y a au-delà de ma condition d'être humain, du simple bonheur d'être, d'écrire, de lire, de manger, boire, voir, jouir. Quelque chose qui, on le suppose, ne doit appartenir qu'au Dieu. Quelque chose qui nous ferait un instant l'égal d'Arès ou d'Aphrodite. S'enivrer. C'est vivre une fois comme les dieux, planer dans l'abolition du temps, de ce que nous croyons être le paradis, artificiel, et la chute est dure. La drogue est une promesse du paradis qui devient l'enfer. Des grands se sont drogués, Artaud, Nabokov, Baudelaire, Rimbaud, etc. Pourquoi pas les minables, les plus humbles? Pourquoi le désespoir et la drogue ne seraient-ils pas les choses les mieux partagées du monde? Lutter contre les drogués, c'est lutter contre les hommes. Donc, le combat sera difficilement gagné. Et quel combat? Avec quelles armes? Pour l'instant, et de la façon dont il est mené, il est perdu. En 1998, la session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies fixait l'objectif du monde débarrassé des drogues en 2015, grâce à la prohibition. Bravo. Belle réussite. Comment a-t-on pu proposer un objectif aussi imbécile? Allez voir sur YouTube les décapitations à la tronçonneuse réalisées par les mafias de la drogue au Mexique. Etc. 10 morts par jour, hein, je vous le rappelle.
Ouais.
Hein. La prohibition de la drogue a créé des états dans l'état. Des mafias tellement puissantes que personne aujourd'hui n'ose plus prétendre les combattre. Elle a suscité un trafic d'armes impressionnant. D'immenses moyens ont été déployés. Ils sont l'avers de l'échec de la lutte. Ils entretiennent des polices désabusées qui survivent de la lutte, comme les truands vivent vite sans la prohibition de la drogue. Et avec la mise en place systématique de salles de shoot. Il existe un exemple fondamental d'échec de la prohibition. Celui de l'alcool aux États-Unis. La prohibition a permis de faire vivre mafia, flics véreux et bons flics. Son arrêt envoya les mafias travailler ailleurs.
Et notamment travailler à la continuation du trafic du cannabis après l'alcool.
Voilà.
Il ne le dit pas, mais...
Je rajoute Régis, quand il y rajoute, elle a suscité un trafic d'armes impressionnant, mais un trafic d'êtres humains, un trafic en tout genre. Là, je prendrais peut-être presque envie de prendre de la distance avec le texte, dépénaliser plutôt que criminaliser, je dirais légaliser plutôt que criminaliser.
Ah, il ne va pas si loin.
Malheureusement. Comment liquider le trafic de drogue dans les cages d'escalier des immeubles de banlieue par plus de policiers? Évidemment pas. Il faut en finir avec la criminalisation de la possession du cannabis. Aux États-Unis, 17 États l'ont fait. La Nouvelle-Zélande s'est engagée dans cette voie. Voilà, donc là c'était... Oui, pourtant c'était il n'y a pas longtemps. Depuis longtemps, la Suisse pratique la prescription légale d'héroïne pour les consommateurs les plus dépendants. L'Allemagne, le Royaume-Uni lui emboîtent le pas. Légaliser. Vendre tout en pharmacie. Point d'interrogation. Ou simplement dépénaliser les drogues dures et légaliser le cannabis. Cela paraît être le minimum. Il dit bien légaliser le cannabis. Hein. On dira oui. Mais pourquoi ne pas légaliser la vente d'armes alors? D'abord, n'importe qui peut acheter un fusil de chasse, en scier le canon et tirer dans la foule. Ensuite, il est infiniment plus facile d'intercepter une caisse d'armes qu'un sachet de cocaïne. Enfin, le monopole de la violence appartient à l'État, c'est sa définition même. La drogue n'a rien à voir avec le monopole de la violence. La surveillance et la prise en charge des drogués s'imposeront, et non leur incarcération. On peut rêver d'une véritable lutte contre la consommation de tabac, la fasse diminuer et qu'à terme une politique de prise en charge des drogues limitera les consommations. En tout cas, une telle politique serait moins onéreuse qu'une politique de répression. Vive une fois comme des dieux, non. Vive enfin comme des hommes.
Voilà, donc petit article sympatoche de Maris du mois d'octobre, du 22 octobre dernier. Dans ce numéro spécial cannabis légalisé. Voilà. L'article suivant de Elsa Kaya, qui est psychanalyste. On verra peut-être plus tard, mais bon, c'était pas le plus emballant, j'ai envie de dire. Voilà, donc un petit. On va continuer notre petite revue de presse dans le sens où on l'a commencé, hein, d'ailleurs. On va faire un petit tour sur le sujet du cannabis thérapeutique. Hein. On sait que parmi les auditeurs et auditrices qui nous écoutent tous les lundis soirs, il y a des gens qui s'intéressent à la question du cannabis thérapeutique. Il y a peut-être même des personnes directement concernées qui sont peut-être concernées par des pathologies particulières et qui, voilà, faites des informations. Voilà. Il y a des gens qui nous appellent des fois et qui nous en parlent. Donc, pour la France, pour ce qui concerne la France, théoriquement, depuis la fin de l'année 2014 et normalement dans le courant de cette année, il est possible de devoir prescrire du Sativex. Tu nous en avais parlé. Mets ton micro. Voilà.
À ce propos, j'ai une petite info.
Eh ben, vas-y, donne.
Par rapport à ce que j'avais dit dans l'émission du 29,
oui.
La personne qui a du Sativex, oui, qui m'a dit qu'elle se soignait avec et que c'était remboursé par la Sécu, a une ALD.
Donc c'est bien une ALD.
Voilà.
C'est bien ce que je pensais.
Voilà.
Voilà, donc dans le cadre d'une ALD, vous pouvez vous voir prescrire et rembourser votre traitement au Sativex. C'est une très bonne nouvelle, très très bonne nouvelle. Mais il faut vraiment signer l'ALD. Voilà, si vous n'êtes pas dans le protocole. ALD, affection longue durée.
Merci.
Voilà. Ça veut dire que quand tu es concerné par une pathologie sérieuse, eh bien, il faut signer ce protocole avec la CPAM. Et dans le cadre de ce protocole, tous les soins sont pris en charge par la Sécu par rapport à l'affection particulière uniquement. Voilà. Donc, honnêtement, selon les politiques et la CPAM, la mise en place de ce dispositif permettait de faire des économies. Voilà. Bon. En tout cas, c'est bon à savoir quoi, qu'une personne, par exemple, qui, je sais pas, aurait une maladie de Crohn, une sclérose en plaques, le Sativex, théoriquement, c'est vraiment spécifiquement fait pour la sclérose en plaques, enfin pour traiter la sclérose en plaques. Donc on peut imaginer effectivement qu'une personne concernée par la sclérose en plaques qui a signé une ALD, donc voilà, peut se voir prescrire et rembourser le Sativex.
Voilà. Ouais, c'est une excellente nouvelle, le remboursement, parce que on n'avait pas ça dans les tuyaux, nous.
Non,
en fait.
Non. Puis vu le prix du flacon, je trouve 250 euros.
Donc, ouais, moi j'ai entendu. Bah,
en Allemagne, 650.
D'accord.
Et en France, c'est bien à peu près ce prix-là, d'ordre de 200 et quelques euros. Donc,
et j'ai pas plus d'infos sur le prix.
Okay, mais en Allemagne, tu vois, on en parlait aussi la dernière fois, l'autoproduction est tolérée dans certains cas où les gens peuvent pas justement payer le médicament pour calmer leur douleur.
On en a parlé un de ces soirs à cette antenne il y a quelques mois. Et en principe, oui, ça peut être possible sur le principe, mais on avait vu le cas d'une personne qui avait eu des sacrés ennuis avec la justice. Hein.
Mais c'est pas dans tous les landers.
Non, c'est pas dans tous les landers. Et
c'est un peu compliqué.
Ce que disait l'article, c'est que c'est des dispositions dont pas grand monde est au courant et que globalement, ils n'ont pas spécialement envie d'appliquer non plus.
En France, on est au courant de ce qui se passe en Allemagne.
Oui, mais en Allemagne, même des professionnels au niveau de la santé ne sont pas forcément au courant de ces dispositions-là qui ont cours dans leur pays, en fait.
Oui, je comprends.
Voilà. Donc, bon, voilà. Donc, on va revenir un peu à l'article. Un article de pourquoidocteur.fr. Le cannabis thérapeutique autorisé pour les enfants aux États-Unis et notamment dans l'Illinois. C'est une nouvelle loi qui est entrée en vigueur il n'y a pas très longtemps, à la fin de l'année 2014. Et cette nouvelle disposition autorise donc des médecins à prescrire du cannabis aux enfants à des fins thérapeutiques. Alors, attention, il ne s'agit pas de prescrire des cigarettes au cannabis aux enfants. C'est pas de ça dont il s'agit. Hein. Il s'agirait plutôt de permettre à des enfants de consommer une huile essentielle faite à la base d'une souche de cannabis particulière nommée Charlotte's Web, la toile de Charlotte, ça veut dire. Voilà. Et donc, cette huile essentielle, elle a des propriétés bien spéciales, elle contient relativement peu de THC, qui est un des éléments psychotropes du cannabis. Par contre, elle contient un autre cannabinoïde bien connu, qui est le CBD, le cannabidiol, et qui est réputé, lui, pour ses propriétés antalgiques et anxiolytiques. Voilà.
Ouais, bah c'est celle qui est fabriquée aussi par les Israéliens. Je ne sais pas si c'est la Charlotte's Web qui font ou si c'en est une autre. Mais en tout cas, elle a les mêmes propriétés et eux, ils s'en servent pour traiter les traumatismes, les chocs
Les SSPT, les syndromes de stress post-traumatique, ouais.
Tout à fait.
Voilà, que connaissent les militaires. Qui vont faire des choses pas très sympathiques, voire franchement dégueu en Israël, voilà. Bref, pas revenir là-dessus, mais en tout cas, ils sont traités.
Voilà, et là, donc, cannabis. C'est plutôt, par contre, là, pour les crises d'épilepsie. Donc voilà, mon cher, on a pris quelque chose sur le CBD, il a au moins deux...
Ouais.
Ça fait partie des mêmes choses, hein, antalgiques et anxiolytiques.
Oui. Alors, des crises d'épilepsie particulièrement sévères hein, chez les enfants. Enfin, pas que chez les enfants, hein, y a des adultes qui peuvent en souffrir aussi, hein, de crises sévères, mais voilà. Enfin, après, sous forme d'huile essentielle, je dirais que ça peut être utilisé sous un certain contrôle de connaisseur ou médical. Hein, ça peut être utilisé par des enfants comme par des adultes. Voilà.
Et évidemment, il y a une polémique. Hein.
c'est, y en a qui considèrent que c'est que ce n'est qu'un remède de grand-mère. Voilà. Hein.
Bah oui, aux yeux de la médecine conventionnelle. C'est un remède de grand-mère, mais en gros, il conseille aussi aux utilisateurs de rester prudents.
En tout cas, on en reparlera dans quelques années, hein, dans 5 à 10 ans, quand les enfants seront devenus adultes, et on aura eu des tests, on aura des essais cliniques, on va dire, grandeur nature. Et donc, on pourra dire voilà, si c'est efficace ou pas.
Alors, deux petites choses, sur l'huile essentielle de chanvre ou de cannabis. Il me semble que c'était une préparation qui était utilisée, qui est toujours utilisée aujourd'hui, hein, mais qui en tout cas était un peu utilisée à une époque où en tout cas le cirque était au courant, parce que le cirque a un peu encadré, piloté, copiloté, supervisé une association de malades qui s'appelait Prisam à la fin des années 90, avant Principe Actif, UFC Med et tout ça. Et il y avait des personnes qui nous avaient contactés et qui avaient pu bénéficier d'un appui thérapeutique de conseil par l'intermédiaire de médecins suisses.
C'est ça. Voilà.
Et parmi ces patients, il y avait des personnes qui utilisaient des préparations à base d'huile essentielle et que ça avait pas mal soulagé. Voilà, donc c'est pas nouveau non plus, une préparation à base d'huile essentielle avec du cannabis. C'est pas nouveau. Et deuxième petite chose que je voulais dire.
Ouais. Par contre, ces huiles essentielles n'étaient pas avec que du CBD, elles étaient au contraire très fortement
dosées en THC.
Fortement dosées en THC. Et par contre, là, c'est très bon pour les douleurs musculaires, si je ne me trompe.
Oui, parce que selon les cannabinoïdes, ça peut permettre de traiter telle ou telle pathologie, quoi. Puis on parle beaucoup du CBD, mais il y en a d'autres, hein, des cannabinoïdes. Hein. Il y a le CBN aussi, le cannabinol. Celui-là, on n'en entend pas trop parler. Je ne sais pas si ça peut aider pour d'autres maladies. Mais il y a plein de cannabinoïdes. Hein. On en connaît très peu, finalement. Ouais,
parce qu'on sait que, oui, qu'il y en a plus d'une centaine de cannabinoïdes différents. Voilà, et quand je disais que c'était des herbes fortement dosées en THC, mais elles étaient peut-être aussi très dosées d'un autre cannabinoïde avait un impact sur le musculaire. Donc, c'était juste pour préciser un peu ma pensée.
Bien, c'est bien, t'as bien fait de préciser ta pensée.
On peut se dire que j'ai... Voilà.
Et dernière petite info que je voulais donner, c'est une vidéo qui tourne déjà sur Internet depuis pas mal de temps, mais on peut la choper maintenant directement sur le site Internet du Cirque Lyon. Dans la partie rapport, dossier, vous verrez, il y a une partie sur le cannabis thérapeutique. Et en ligne, nous avons mis deux vidéos, dont une qui est quand même particulièrement spectaculaire. On en a déjà parlé à cette antenne, mais du coup là, j'en profite pour en reparler. C'est une vidéo en allemand, hélas, qui est issue d'un documentaire diffusé à la télé allemande qui s'appelle Planetopia. Et sur cette vidéo, on voit un jeune homme, qui lui n'est pas concerné par la sclérose en plaques, ni la maladie de Crohn, ni même l'épilepsie, quoi d'autre, bref. Mais par contre, lui, ce qui le concerne, c'est le syndrome Gilles de la Tourette.
Voilà.
Et je vous invite vraiment à regarder la vidéo, parce qu'il y a peut-être encore des gens qui doutent des effets du cannabis quand on est concerné par une pathologie particulière. Voilà. En tout cas, pour le syndrome Gilles de la Tourette, cette personne qui est concernée et qui accepte de témoigner à l'antenne sur le report dans le documentaire de Planetopia, et il est vraiment particulièrement handicapé, ce monsieur, pour s'exprimer déjà, pour un certain nombre d'actes de la vie quotidienne. Hein, d'ailleurs, il peut pas trop.
En fait, c'est cette maladie où tu balances
des injures sans arrêt.
Ouais, ouais, voilà.
Des injures, et puis t'es très pulsionnel.
Ouais, voilà. T'es tremblant,
t'es désordonné. Ouais.
Et donc, oui, dans cette vidéo, on voit très clairement son état. On le voit en train de rouler un pétard.
Ben, on le voit déjà, il essaie de mettre un truc au micro-ondes, ou il essaie de faire sa vaisselle, ou je sais pas quoi, et c'est une galère. Il a du mal à parler. Et puis, il va dans son salon, il s'assoit, et il essaie de. Enfin, il roule une cigarette.
Comme il peut.
Et il l'allume, il tire quelques bouffées sur sa cigarette, et au bout de 3-4 minutes, il se calme, je sais pas comment dire, et il finit par s'exprimer normalement. Voilà. Et puis, il n'est plus pris de tremblement, il n'a plus envie d'insulter qui que ce soit. C'est impressionnant la vidéo, hein, franchement. Mmh.
Ouais, ouais, moi j'ai vu ça, ça a tourné pas mal aussi.
Depuis plusieurs années, ouais.
Ouais.
Quelques, ouais, 22 ans, je crois. On n'arrive pas à la saisir, et là j'ai réussi, j'ai mis le lien sur le site du cirque.
Bah, t'as bien fait.
Voilà.
T'as bien fait, c'est un super témoignage.
Ouais, c'est intéressant. Alors, il y a toujours des sceptiques, hein. Moi, j'ai des gens qui j'ai entendu me dire, ah, mais c'est un truc faux. C'est fabriqué, c'est n'importe quoi. Mais
non, on a le droit de pas le croire. Après, ouais, dans nos entourages, on peut discuter avec des gens qui se soignent avec le cannabis. Et quand vous parlez avec ces gens, bah, vous avez le droit de pas les croire aussi, quoi. Puis si vous voulez rester enfermé dans votre connerie, bah, vous restez enfermé dans votre connerie. Moi, quelqu'un qui me dit j'ai mal là et quand je prends ça, ça va mieux. Ben, je le crois, et puis j'ai envie qu'il arrive toujours à trouver son médicament pour qu'il se sente mieux, c'est tout, je cherche pas à comprendre. Je sais pas, on a chacun des modes, des façons de se guérir différents, et ça aussi c'est la liberté, tiens, on parle de liberté en ce moment, ben, la liberté de se guérir avec ce qu'on veut, avec des plantes, avec n'importe ouais. quel produit qu'on a envie. Puisque dans la mesure où ça te fait du bien, on ne peut pas te l'enlever, quoi.
Eh oui, mais c'est bien pour ça qu'ils veulent nous l'enlever, j'ai l'impression, justement. Aussi, enfin, pas que, on sait bien, mais...
Parce que beaucoup de consommateurs de cannabis récréatif, c'est aussi, quelque part, un mode de calmant, quelque chose qui t'aide pour ta vie de tous les jours ou pour ton corps, quoi. Le récréatif, il cache aussi quelque chose pathologique, non, vous ne croyez pas ?
Après, il faut savoir qu'on peut l'utiliser comme il y en a qui prennent un calmant tous les soirs pour aller se coucher. Il y en a qui ont besoin de leur joint tous les soirs pour aller se coucher. Ça peut être le somnifère, ça peut être. Ouais, c'est tellement différent, il y a tellement d'usages. Voilà. Après, il y a l'usage qu'on en fait. Bon, c'était peut-être dans l'article de la psychiatre ou autre, justement sur le comportement plus que sur le produit lui-même. Parce qu'à la limite, quel que soit le produit, c'est le même problème avec la même chose avec nous, le même problème, puisqu'on parle de gens qui abusent d'un produit. Donc là, ça devient un problème. C'est pas le produit, c'est l'abus du Carrément. Produit qui est le problème. Et c'est là que Bernard Marie avait raison. Ça se soigne totalement. Ça se soigne. C'est l'abus se soigne. C'est pas l'usage qu'il faut soigner, quoi. C'est du bon usage de tous les produits. C'est ce que disait Lebeau. On peut avoir un usage dur d'une drogue douce et un usage doux d'une drogue dure. Voilà, il faut appréhender les choses, il faut de la culture, il faut de la prévention, il faut des interdictions avant 18 ans, sans doute. Voilà, quoi, faut pas non plus faire n'importe quoi. Voilà. Après, c'est comme tout. On peut mettre des interdictions à 16 ans pour l'alcool, pour la bière, pour... peut-être juste pour je sais pas, peut-être pour le tabac aussi, parce que c'est à 18 ans, c'est le produit qui se fume, 18 ans, c'est dangereux, quoi. Faut pas fumer. Vaporiser, pourquoi pas, voilà, ça se fait dans les choses qu'on n'a pas le droit de faire de la prévention, on n'a pas le droit normalement.
Carrément pas, sur un produit interdit ? Bah, carrément pas. Faire de la prévention, ça veut...
Ben, faire de la prévention, la fausse prévention aussi, c'est possible.
Ça serait de l'interdiction.
Dire que c'est mal et que c'est dangereux et que c'est de la merde. Et que
ouais, voilà.
Sur le tabac, quand tu roules une cigarette à rouler avec ton tabac roulé, il faut mettre un filtre. C'est meilleur pour ton poumon. On peut faire cette prévention pour le tabac, puisque c'est un produit légal. Mais si on fait la même chose sur le cannabis, on est dans l'illégalité. Puisqu'on fait la promotion de ce produit. C'est de l'absurdité de des lois, quoi, du système dans lequel on se bat. Mais
à partir du moment que c'est interdit, t'as pas expliqué comment le consommer.
Bah oui, forcément.
Voilà.
Sinon, t'en fais de l'apologie.
Voilà.
Bref, bon, alors, du coup, il ne nous reste plus beaucoup de temps.
On s'est vite fait le dernier, parce que...
Le dernier, oui.
Hein, ça donne faim le chanvre, il paraît, ou le cannabis.
D'accord, je ne savais pas si vous vouliez en arriver jusque-là, mais... on va se garder quelques petites secondes pour la fin, parce que très vite je vous parlerai d'un sujet un peu plus fait divers. Ah,
d'accord,
il faut le rappeler.
Je le fais très vite.
Vas-y.
Cannabisinfo.com, cannabis, études, fin, no comments. Donc, le cannabis et les fringales sont souvent ensemble. Mais qu'est-ce qu'il y a dans notre air favorite qui provoque de telles envies de nourriture ? eh bien, des scientifiques s'y sont penchés et ont trouvé des théories assez complètes.
Enfin, ils s'y sont penchés.
Enfin.
Enfin, parce que c'est pas trop tôt, quoi.
Eh ben oui, il faut attendre que des scientifiques fumeurs arrivent.
Oui, c'est vrai
se
aussi.
Sur la question.
C'est vrai aussi.
Sans doute, peut-être que je surinterprète.
Sans doute.
Il vous est donc souvent quand on fume, il arrive qu'on ait envie d'aller piller le frigo, surtout manger des produits
interdit,
sucrés. Ce qui a été découvert dans une étude, c'est que cela vient du système endocannabinoïde. Donc c'est un système, anticannabinoïde.
Endo.
On l'a tous, hein, endocannabinoïde. C'est un système qu'on a tous, hein, c'est des récepteurs qu'on a dans le corps entier.
Dans le corps entier,
ouais. Et ils régulent une myriade de fonctions dans l'organisme. Entre autres, les émotions, les réponses humanitaires, la mémoire. Est-ce qu'il nous intéresse ici à l'appétit ? La douleur, j'ai oublié, oui.
Ouais, la douleur. Et réponse immunitaire, pas humanitaire. Oui. C'est pas pareil. Hein.
Et oh. Ou j'articule mal.
Peut-être que les réponses humanitaires aussi, d'ailleurs. Hein,
mais... C'est secondes, mais il me semble bien avoir dit humanitaire.
Non, j'ai bien entendu.
C'est enregistré. On coupera au montage.
Bref, parce que si tu me coupes à chaque fois,
excuse-moi,
forcément. Donc voilà, dans le système endocannabinoïde dont on vient de parler, ce qui nous intéresse là, c'est le bulbe olfactif. Vous savez, donc le pif là, le nez, avec le, parce que ça aiguise donc le goût et l'odorat. Et donc dès qu'on fume, dès qu'on a reçu du THC, ça suggère que la nourriture de cannabis rend le cannabis rend plus attirant le goût et l'odeur de la nourriture. Et donc, si on en sent un petit peu, ou si on en voit sans doute, ça augmente nos envies de nourriture.
Ça aiguise tout ça.
Voilà.
Tout
ça. Donc, ça c'est
en appétit,
une des choses. Et une autre étude a découvert, parce qu'en plus d'avoir envie de manger, on mange du sucré. Et donc, une autre étude montre que cette fringale joue, quoique le THC, a aussi un effet sur l'hypothalamus, qui lui est qui stimule la production de ghréline, voilà, tout à fait. Et cette ghréline, quand elle est stimulée, ça stimule l'appétit. Et ça donne envie de manger des aliments sucrés. Donc les deux ensemble, ben, ça donne envie de manger et de manger du sucré. Voilà. C'est peut-être pas complet encore comme analyse, hein, mais en tout cas, le pulse se met un petit à place, en place pour savoir comment fonctionne le cannabis sur le système endocannabinoïde.
Oui, alors du coup, ben, pour faire un petit lien avec le thérapeutique, toutes ces études-là, a priori qui sont pas liées, mais disent que ben, ça peut quand même plus tard déboucher sur de potentielles applications thérapeutiques pour le cannabis, voilà, dans les cas où l'appétit doit être stimulé, justement. Je pense aux personnes qui vivent avec le VIH, par exemple, qui prennent des traitements qui peuvent être assez lourds, et qui, dans certains cas, justement, sont concernés par des troubles de l'alimentation, ou des personnes qui ont un cancer et qui se soignent avec une chimiothérapie, et qui sont quand même particulièrement attaqués par les remèdes qu'ils doivent prendre pour se soigner. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ces personnes perdent l'appétit, et leur perte d'appétit les fait maigrir, sont moins résistants au traitement, etc. Et du coup, voilà, ça présente vraiment un intérêt pour leur donner faim, les faire manger et les faire grossir, quoi. Enfin, parce que bon, bah, ils sont trop dénutris, voilà. Et là, ça a un peu avoir un intérêt, quoi. Voilà. Il nous reste 3 minutes, donc très vite, on parlera la semaine prochaine un peu des lois sur les gros shops aux Pays-Bas.
Il y avait pas un truc qui se prépare là bientôt ?
Pas tout de suite. Ça va venir, mais pas tout de suite.
Non, là on est.
Mais pour l'instant, on dit rien.
Voilà.
Mais ça, t'inquiète. Donc oui, je voulais vous parler. Alors les faits divers, on n'en parle pas très très souvent à cette antenne pour une raison simple, c'est que il y en a plein en fait. Maintenant, avec Internet, Facebook. Et le petit groupe d'anti-prohibitionnistes ou de cannabinophiles font circuler de l'information. Ça tourne sur Facebook et tout, et des articles dans la presse quotidienne régionale qui relatent des faits d'arrestation de consommateurs et notamment de cultivateurs, il y en a pléthore. Et là, il y a un article qui a retenu mon attention, un article de Midi Libre de la fin de la semaine dernière. Ça se passe dans l'Hérault, plutôt dans les hauteurs du parc naturel régional de l'Hérault. Ça se passe vers le Bousquet d'Orbe, en fait, dans l'arrière-pays de Montpellier-Béziers, dans des coins magnifiques d'ailleurs. Eh bien, dans un hameau, le hameau de Sade, au-dessus d'Avennes. Et donc, c'est la brigade de recherche de Béziers hein, qui a découvert 300 pieds de cannabis, ah, ni plus ni moins. 300 pieds qui poussaient dans un hameau, une petite maison. Et en fait, c'est des promeneurs qui se baladaient voilà, dans le coin et qui sont passés pas très loin du hameau et donc d'une bâtisse dans ce hameau. Et qui ont trouvé que ça sentait fort le cannabis. Et donc, ils n'ont pas eu de meilleure idée que d'appeler les gendarmes. Ouais. Voilà. Et de leur expliquer qu'ils avaient été faire une petite promenade et que ça sentait bon le cannabis. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Très vite, les gendarmes ont mis sur pied une opération qu'ils ont appelée Fleur de Sade. Ils ont de l'humour, hein. Ils ont pris des renseignements sur le propriétaire de la maison suspecte, mais aussi sur son locataire. Ils sont aperçus que le propriétaire avait eu des soucis avec la justice, que le locataire habitait à Montpellier dans la cité Gély, qu'il était bien connu pour des affaires de stupéfiants. Et d'autre part, il se trouve que ce hameau est un hameau très dépeuplé, parce qu'il y a à peu près pas plus de 6 habitants qui y vivent. Donc bon, c'est gros daf quand même, quoi. Et en plus, bon voilà, c'était bien foutu quand même, cette maison. On y accède par un chemin escarpé, au bout d'un cul-de-sac. Même pas 6, 2 habitants qui vivent là à l'année. Voilà. Et 2 autres qui possèdent une résidence secondaire. C'est dommage, hein, c'était un bon plan quand même. Hein, mais bon voilà, donc mercredi dernier, 6h du matin, 20 militaires... 20 gendarmes engagés sur 2 sites, dont un avec Maître Chien, ont investi les lieux. Ils ont interpellé 2 personnes. L'autre personne arrêtée à Montpellier. Au hameau, ils sont tombés sur une immense plantation. Et ils vont découvrir, donc, dans 3 locaux, un hangar, un garage et un appartement, quelques 250 pieds en pot et 50 en train de sécher. Mais c'est pas tout. Les enquêteurs vont aussi tomber sur 400 grammes de fleurs séchées. Et un matériel incroyable, estimé à plusieurs millions d'euros. Bon, ça, on s'en fout. Il y a toujours les considérations économiques qui passent devant tout. On estime le produit à la revente, estimé à plus de 300 000 euros, blablabla. Donc 2 suspects interpellés, un homme de 39 et un autre homme de 29 ans, placés sous contrôle judiciaire en attendant leur jugement. Alors ça, par contre, j'ai trouvé ça incroyable. Voilà, ils les ont interpellés et ils les ont placés sous contrôle judiciaire. Ils les ont pas mis en détention provisoire. Et ben ça, c'est, je vous assure, c'est un progrès. Hein. C'est quand même... avec les quantités comme ça, on peut s'imaginer qu'ils se retrouvent en détention provisoire. Mais non, ils ont été mis en contrôle judiciaire. Il y a une troisième personne, un natif de Paris, qui a été présenté devant le parquet de Montpellier dernièrement et placé, lui, en détention provisoire. Donc une des trois personnes. Voilà, placé en détention provisoire après la prolongation de sa garde à vue et qui sera jugé vraisemblablement en comparution immédiate à la fin de cette semaine. Alors je sais pas si c'est vendredi dernier ou celui de cette semaine. Voilà, donc bon, tout ça pour dire que soyez discrets encore une fois, on le répète suffisamment. C'était vendredi dernier, ouais. Ah, mais bon, voilà, donc on en parle de temps en temps. Tout ça pour dire que il faut la discrétion, quoi. Discrétion, c'est sûr que si vous mettez à cultiver des quantités pareilles et que vous ne filtrez pas votre air, ça sent. Et du coup, ça attire les promeneurs et la marée chaussée. Voilà, sur ce, nous allons terminer Cannabis Circus. L'émission du Cirque Lyon, les Cirques Lyon que vous pouvez joindre par téléphone au 06 11 53 10 07, par mail cirque-lyon@no-log.org. Vous pouvez visiter notre site internet www.cirque-lyon.fr. Voilà, www.cirque-lyon.fr. Vous pouvez nous envoyer un petit courrier, et c'est le moment en ce moment de réadhérer ou d'adhérer au Cirque Lyon. Cirque Lyon BP 93 043 69 605 Villeurbanne, Cedex. J'ai tout dit.
Exactement, tu as tout dit.
Voilà. Donc c'est la fin de Cannabis Circus ce soir, lundi 12 janvier. Et maintenant, c'est Chasseur de Son. À la semaine prochaine, même jour.
Il
même
m'est
heure,
arrivé de fumer du cannabis.
Vas-y. Au revoir.
Fumer du cannabis, a expliqué Obama dans ma jeunesse. Je ne recommande pas évidemment de fumer du cannabis, mais à mon sens, ce n'est pas plus dangereux que l'alcool.
Non, c'est dangereux.